Cannabis Circus, bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes bien le 15 janvier 2018 et c'est donc le premier Cannabis Circus de cette année qui commence en live et en direct comme toujours. Voilà, donc on va vous parler de plein de choses. Je sais pas, j'ai un sommaire qui est long comme le bras, je suis pas sûr qu'on fasse tout, je pense qu'on se fera un jour
Merci de m'avoir branché le micro.
Sur le... non, le casque, tu veux dire.
Le casque, le micro, tout.
Le micro, tu l'avais ?
Ah non, j'avais rien. Bon, voilà, excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais.
Voilà, donc un sommaire très riche.
Long comme le bras, oui.
Ouais, long comme le bras. Je vais passer les faits divers, on va y revenir tout de suite. On reviendra sur un petit peu Trent, les nouveaux trucs qui arrivent, aussi bien à Toulouse qu'en Bretagne, avec toujours plus d'héros. La cocaïne qui stagne d'un niveau long et le cannabis de toujours plus d'autoproduction. Voilà, sinon la Norvège irait vers la dépénalisation, un truc comme au Portugal, en tout cas c'est déjà pas mal. Le maire de Grenoble, Éric Piolle, se lance et pour lui 2018 sera l'année du shit. Il veut lancer un grand mouvement pour la légalisation, donc on va suivre ça, hein, ça nous intéresse toujours. Voilà, donc j'en profite aussi d'ailleurs hein, pour profiter tous les vœux de 2018, hein, de réussite, des cuites et du shit, hein, puisque Éric Piolle donne l'exemple. Voilà, c'était les rimes en hit sans suite. Sinon, toujours dans le sommaire, la Californie face au défi du cannabis récréatif. Donc voilà, c'est parti. Tout se passait bien et boum patatrac, le ministre de la Justice
Jeff Sessions.
Voilà, vient de.
N'est pas de cet avis, ouais. Mais bon.
N'est pas de cet avis et veut remettre l'interdiction fédérale sur le cannabis. Donc bras de fer est entamé. On va voir ce qui va se passer.
On va voir surtout qu'il est complètement à la rue, ce Jeff Sessions, quoi.
Voilà, mais en tout cas, il y a un petit coup de frein, ou en tout cas une petite bataille aux
apparemment, États-Unis.
Apparemment.
Mais bon, on est 15 jours après et...
Voilà. Au Canada, on va voir ce qui se passe. En tout cas, Trudeau dit, peut-être pas le 1er juillet, mais ça sera cet été, en tout cas, peut-être un petit peu après. Peut-être un petit peu avant si on a de la chance. Voilà. Pardon. Nous avons aussi un autre article très intéressant et je pense que on arrivera juste là à peu près à la fin de pour aujourd'hui avec pour la paix des drogues un article dans Le Monde qui est assez intéressant plus la lettre au législateur
non ça c'est moi qui l'ai rajouté
c'est toi qui l'as rajouté pour ceux qui la connaissaient pas
pour que on ait l'intégralité des propos d'Antonin Artaud. Si on veut s'y référer dans l'article.
Je les relis avec plaisir. Je ne sais pas si on aura le temps d'en faire profiter.
Ça serait bien. Ça serait bien. Voilà. Très peu connu, je pense.
Mais je pense que voilà, on s'arrêtera sans doute là-dessus. Ouais. Donc, on nous parlera pas de tout le CBD et les recherches et les interdictions, puisqu'il y a eu aussi à Marseille un canavap.
Le canavap, le fameux qui avait sorti son canavap en décembre 2014 et que Marisol Touraine et la police, la justice lui a sauté dessus au moment de la sortie du rapport Terra Nova.
Donc là, a priori, il a été condamné, lui.
Oui, c'est un scandale.
Voilà, donc alors que on reviendra aussi sans doute sur toute cette actualité
la
différence de vision entre la santé et l'agroalimentaire ou l'alimentaire.
D'accord.
Parce que le cannabis à moins de 0,2% de THC, c'est plus considéré comme des denrées alimentaires. C'est plus de la pharmacopée. Bien que le CBD ait plein soit a priori un remède pour pas mal de maladies.
Oui.
Voilà, donc on reviendra sans doute beaucoup là-dessus. On reviendra sans doute aussi en Uruguay où la vente en pharmacie augmente.
Ça semble décoller maintenant.
Voilà, décolle. Alors bon, alors là c'est vente en pharmacie, mais c'est pas parce qu'ils le vendent comme médicament, hein, pas forcément. Ça peut l'être aussi, je pense qu'ils doivent avoir une variété avec du CBD, il faudrait qu'on aille piocher là-dedans, savoir ce qui se passe exactement en Uruguay, sans doute y aller, pas facile. Voilà, il y aurait aussi le CBD, soignerait la schizophrénie. Voilà, en outre, pour le THC, cela éviterait sans doute des troubles mentaux qui seraient créés par les médicaments qui traitent le VIH. Donc là aussi, bon,
c'est dans Pourquoi Docteur. C'est ouais. Trois articles dans Pourquoi Docteur de la fin du mois de décembre, du milieu du mois de décembre, pardon. Trois articles très courts, assez intéressants. Voilà, donc pourquoidocteur.fr, vous tapez cannabis si ça vous intéresse d'aller consulter ces articles et qui renvoient, me semble-t-il, aux études initiales. Voilà.
Voilà. Et puis le dernier article dont on parlera sans doute pas cette semaine, c'est une bataille alcool contre cannabis, l'impossible comparaison, donc d'après Benjamin Badache.
Toujours dans pourquoidocteur.fr.
Voilà, il dit l'opposition entre alcool et cannabis subsiste, quel est le plus nocif, lequel rend le plus dépendant, lequel est-il pire que l'autre. Bon, alors là-dessus, bon, l'alcool, il gagne pas mal de points. Bon, c'est assez difficile à dire d'après lui, et surtout, c'est qu'on n'a pas les mêmes proportions et de voilà, on n'a pas de les comparaisons sont pas égales entre un produit illégal et un produit légal.
Voilà, surtout.
Donc,
ouais.
On commence à pouvoir avoir une relativité dans certains pays américains.
En tout cas, il termine.
Et, voilà, et il termine. Une chose est sûre, dans les pays où l'alcool fait partie de la culture, alors que le cannabis est une source de délit, le différent traitement accordé à ces deux drogues ne se justifie pas sur le plan médical. Voilà, c'était ouais, juste pour... rien de nouveau, mais ça fait toujours plaisir de le dire d'une façon ou d'une autre. Voilà, on va passer au fait divers.
Oui, ben, surtout, ce fait divers, enfin, il y en a deux, à mon sens, hein, qui conviennent, enfin, qu'il faudrait un petit peu traiter, là. Alors, le premier, bon, on va pas revenir dessus, on en avait déjà parlé il y a... Il y a à peu près 6 mois, c'était dans l'été. Mmh. C'était cette dame, une dame retraitée en fait, qui faisait pousser du cannabis chez elle et qui avait reconnu en faire pousser pour son fils et son beau-fils. Voilà. Donc il y avait eu l'arrestation, etc. On en avait parlé un petit peu. Et là, bah, il y a eu le procès. Voilà. Il y a eu un procès, donc. Alors, déjà, commencer par dire... Alors, c'est ouais, une dame de 62 ans, je vais chercher son âge, qui est retraitée de la fonction publique. La police était venue chez elle, ils avaient trouvé 4 kilos d'herbe de cannabis, ils avaient trouvé des plantes de culture. Voilà, bon. Je ne veux pas rentrer dans le détail, je voudrais surtout m'attarder sur ce qui s'est passé au tribunal, en fait. Alors, la procureure, visiblement, vend debout contre le cannabis. Là encore, on a l'impression qu'elle a vu le démon, hein, ou qu'elle ne l'a pas vu, ou je sais pas. Enfin bon, bref. Donc, la vice-procureure, elle, dit carrément qu'on est face à un trafic de cannabis, que la culture était très organisée, avec des pièces dans l'habitation qui étaient dédiées à tout cela. Bon, visiblement... c'était sa première ou elle en a jamais vu, je sais pas. Enfin, j'ai trouvé ça un peu surprenant. Et en tout cas, voilà les trois personnes qui étaient poursuivies. Donc Sylvie, hein, la dame qui faisait pousser, a pris 5 mois avec 5 mois avec sursis était requis. Son avocate, maître Gilbert Aupin, est revenu sur les raisons de la culture et dit voilà, ma cliente, elle n'a jamais été condamnée. Et surtout, il a quand même pointé, encore une fois, hein, cette dame, elle souffre d'une maladie incurable, elle a un cancer, quoi. Un cancer des os. Ce qui est quand même pas rien. Et l'avocat de conclure en disant, c'est quand même là qu'il faut d'abord chercher l'explication. Pour l'un des autres prévenus, un homme, cette fois-ci, 5 mois aussi, avec sursis mis à l'épreuve requis, l'avocat, lui, a plaidé la nécessité de soins. Il a également dit, voilà, on c'est pas une mauvaise personne, on est aussi dans un contexte familial. Pour un autre, lui, 6 mois ferme requis. Alors c'est marrant, il s'appelle Mohamed et lui, il a pris 1 mois requis en plus que les autres.
Voilà. Parce qu'il a déjà été condamné.
Ah, parce qu'il avait déjà été condamné, oui. Merci.
Moi, je me suis posé la question.
Oui, je l'avais lu, mais c'est vrai que ça m'a pas sauté aux yeux tout de suite. Mais bon.
Les autres étant des primo délinquants.
Primo, voilà. Donc là, pour Mohamed, son avocate a dénoncé bah, des réquisitions sévères dans un dossier qui n'établit pas de rôle particulier pour son client. Et surtout, elle dit qu'il faut quand même abandonner cette théorie du trafic. Voilà. Au bout du bout, au bout du compte, le tribunal a donc, a donc condamné Sylvie, cette dame de 62 ans, atteinte et vivant avec un cancer des os. Elle a donc été condamnée à 4 mois de prison avec sursis, ce qui est quand même pas énorme, vu les quantités qu'ils ont retrouvées. Le fameux Bertrand, 3 mois avec sursis et une mise à l'épreuve. Et Mohamed, 100 jours amende à 7 euros. Voilà. Donc au final, des peines plutôt clémentes, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Oui. C'est pas des peines lourdes, en effet. Mais ah. Voilà.
Voilà, c'est tout ce que je.
On a vu plus. Plus clément.
Plus clément et plus fort aussi.
Et on a vu plus fort aussi.
Plus sévère.
Donc, bon. Voilà.
Donc, bon. Alors, encore une fois, on vous rappelle, on en parle hein, de ces histoires un peu. Hein. On n'en fait pas toute une émission, mais on en parle quand même un peu. C'est juste pour voilà, vous compter, vous montrer les réalités de la guerre à la drogue en France. Et de ceux que ça peut concerner, voilà, tout simplement. Et du coup, ben, on s'aperçoit aussi au fil des émissions, hein, si vous nous suivez, que ben, selon les endroits où sont arrêtés, jugés et condamnés les personnes, les peines divergent.
Donc voilà. Voilà. Ensuite, d'ailleurs, justement, dans les peines qui divergent, on a parlé de Canavab qui a été condamné à Marseille. Parce qu'il vendait
de l'huile à base de CBD, de l'huile à vapoter, ouais.
De vapoter avec du CBD. là, c'est.
Toi, t'as pas assez vapoté, toi.
Là, c'est une autre boutique.
Alors là, ça se passe à Montpellier.
C'est pour des graines. Alors et là, c'est pour des graines.
Voilà. Et là, franchement, on a envie de se fendre la poire. Et oui, bah, parce que pourquoi ? Parce qu'on vit dans un système de prohibition où, en fait, qui est particulièrement propice à l'hypocrisie. Et là, on en a vraiment un exemple fabuleux. Hein. Ça se passe tout début du mois de janvier. C'est la douane, en fait, qui est partie inspecter une boutique montpelliéraine de produits naturels à base de chanvre. Et ils ont souhaité contrôler un carton qui contenait 2500 graines de cannabis, de graines qui venaient de Sainte-Cécide. Hein, la Sainte-Cécide, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le premier, je crois bien, breeder de graines, en fait, en Hollande, qui a commencé ses activités, je crois, à la toute fin des années 70, ou début des années 80. Et donc, les douaniers... ont souhaité contrôler ces graines, voilà, des graines de cannabis, hein, tout simplement, dans le quartier de Saint-Denis à Montpellier, une boutique qui est tenue par Romain et Aurélien, voilà, ce qu'on peut lire. Et ces deux jeunes hommes donc vendent des produits à base de chanvre, mais aussi des graines de cannabis. Hein. Et donc là, dans l'article, alors c'est un article de France 3 Région, j'aime bien. Oui, mais voilà, il s'avère que leur détention n'est pas illégale. Et après analyse effectuée, il est démontré que les graines ne contiennent pas ou très peu de THC, une substance interdite en France. Du coup, c'est très rare. La marchandise a dû être restituée. Et alors là, c'est formidable. L'avocat des deux mises en cause dit voilà, mes clients ont pris toutes les précautions consistant à s'interroger sur la teneur de leurs produits en effet psychotropes et elle est nulle. Sauf qu'elle a quand même heureusement que le journaliste de France 3 ou la journaliste dit ceci quand même. Mais s'il n'existe pas d'effet psychotrope dans les graines, une fois cultivées, la plante pourrait contenir un taux élevé de THC. Ah, quand même. Et donc selon les deux responsables de la boutique, ces boîtes contenant les graines de cannabis vendues entre 15 et 150 euros. Et oui, les graines de la Sainte-Cécide sont plutôt des bonnes graines, mais il n'y a pas que ce fabricant. Donc ces graines sont destinées uniquement à la vente pour des collectionneurs. Et oui, ce sont des graines de collection. Ah, merci, comme c'est beau la prohibition. Et oui, parce que il faut le dire, il faut le rappeler. Donc voilà, il est possible, il est légal. Vous pouvez acheter des graines de cannabis dans le commerce. Tout à fait, c'est tout à fait légal. Par contre, vous n'avez pas le droit de les faire germer. Et vous n'avez pas le droit de les faire pousser.
Oui.
Tout simplement.
Parce que là, vous devenez un criminel.
Ah oui, là
vous. Et vous risquez perpète parce que vous êtes dans la production.
Voilà. Exactement.
Alors, si vous le faites en famille, tu vois qu'on est très vite dans le trafic. Surtout si c'est la mamie qui le donne à son fils.
Oh, 4 mois de sursis. Ça va? Bref, donc oui, on est vraiment dans une situation complètement hypocrite et hyper paradoxale. Ces deux jeunes gens qui tiennent cette boutique à Montpellier le savent, hein, bien évidemment, ils sont pas neuneux. Mais bon, voilà. Il y a encore peu de temps, il n'y a pas si longtemps, je crois qu'il y a 2 ans, je dirais, 3 ans, on va dire. C'était illégal en France. Vous ne pouviez pas vendre des graines de cannabis. Ça a duré un moment, hein, je crois, entre 2005 et donc 2016 ou 2017. C'était absolument impossible et interdit, hein, en France.
Bah, si tu les vends pour les faire germer, c'est interdit.
Mais c'est illégal. Mais même. C'était impossible et interdit.
Bah, oui, je sais. Il y a eu toutes les subterfuges avec les graines à oiseaux, des mélanges de graines dans lesquels il n'y a que quelques graines de cannabis, et d'autres subterfuges divers qui ont été tentés et inventés. Mais bon. Voilà,
alors, en fait, ce que je voulais dire, voilà, pour finir, je crois que c'est une. La France a dû se mettre en conformité avec l'Union européenne, en fait, pour donner le droit, en fait, à des commerces de vendre, de commercialiser des graines de cannabis, ce qui n'était pas le cas jusqu'en 2016. Voilà. Et d'ailleurs, nous-mêmes au CIRC, on a cru pendant longtemps là que c'était pas possible, puis bon, finalement on a revu dans la loi et effectivement maintenant voilà, vous pouvez en acheter, mais comme nous vous le disions, si vous faites germer les graines et que vous en faites pousser, là vous tombez sous le coup de la loi. Voilà. Ensuite, autre petit article avant d'écouter un peu de musique, eh bien ce sont
Les suites d'Indoor Garden dont on avait déjà discuté, vous savez, où ils avaient arrêté et mis en.
Ben, ils ont été arrêtés et on les a mis en garde à vue, voilà, et etc.
Avec tous les employés, etc. Donc ils avaient reconnu qu'ils avaient.
Alors juste avant de, parce que on parle en fait de 4 magasins franchisés Indoor Garden qui se situent à Carquefou près de Nantes, à Rennes, mais aussi au Mans et à Fleury-sur-Orne près de Caen. Donc qui s'était retrouvé dans le collimateur de la police au mois d'octobre, hein, au mois d'octobre-novembre, et donc il comparaissait le 30 novembre dernier devant le tribunal correctionnel de Rennes pour complicité de trafic de stupéfiants, hein, c'est-à-dire c'est pas rien, quoi. Donc le parquet avait quand même requis une peine de 18 mois de prison avec sursis, une amende de 100 000 euros. La confiscation d'une maison est de 40 000 euros, ainsi qu'une interdiction de gérer une entreprise pendant 5 ans. Et là, donc, tribunal a rendu son verdict la semaine dernière, le jeudi 11 janvier. Et donc, ils ont pris 12 mois d'emprisonnement avec sursis. La confiscation partielle de leurs biens est ordonnée et une amende fixée à 20 000 euros, dont 10 000 euros avec sursis. Et par ailleurs, la société anonyme, la SAS, alors je ne sais plus ce que ça veut dire,
le jardin. Société.
Bref, peu importe. Donc la SAS, le jardin de Bellamy, qui gérait les 4 commerces, elle était dissoute à la suite des poursuites. Donc voilà comment mettre 4 personnes au chômage et les empêcher de travailler, même, je dirais, dans leur spécialité. Puisque quand vous vous retrouvez avec 20 000 euros d'amende, enfin 10 000 euros d'amende à payer, même s'ils sont 4, ça va quand même faire une petite somme.
Voilà, et je pense par contre que ça fait plus que 4 personnes au chômage. Hein. Parce qu'il y avait les employés, donc ça fait plutôt 8 ou 10 personnes.
Hein. Oui, t'as raison, effectivement. Ouais.
Voire un peu plus.
Voilà, donc des magistrats zélés, en tout cas, qui ont souhaité, appliquer les lois à la règle, ou en tout cas tenter de le faire. C'est absolument lamentable. Pareil pour le responsable de Canavap, hein, qui s'est retrouvé condamné à. On l'a, la condamnation, là. Voilà, dans un article, je me rappelle
oui,
pas.
Oui, mais je sais plus, bah, c'est pas grave, hein. On vous dira ça tout à l'heure.
Voilà, et un peu de musique. C'était Naked Beast avec Cannabis Therapy. Bien, alors, après ces trois petites news, enfin une de plutôt bonne nouvelle avec les graines de collection à Montpellier et moins bonne nouvelle avec les deux les jardineries condamnées, ça me sort par les yeux, franchement. Alors là, on ne cessera jamais de se ridiculiser visiblement en France. Je sais pas, on va peut-être pas passer des heures sur ces deux articles de
Trent, oui, tout à
de
fait.
Trent, enfin, juste, voilà, juste dire qu'en fait, je les ai rajoutés dans la revue de presse, puisqu'ils sont sortis en des moments très très proches, et qu'ils parlent de la même chose dans deux régions différentes. En fait, il y en a un qui nous parle plutôt de ce qui se passe en région Midi-Pyrénées, et à Toulouse, et l'autre nous parle plutôt de ce qui se passe en Bretagne.
Tout à fait.
Et donc voilà, très rapidement, on peut peut-être quand même dire un peu de ce qui ressort de ces, de ces deux articles, très vite.
Rappeler un trend, c'est un truc qui vient de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, qui dresse un petit peu un panorama de ce qui se fait chaque année, ou régulièrement, je ne sais plus si c'est chaque année. En tout cas...
Bah, déjà trend, on peut dire ce que ça veut dire, c'est tendance récente et nouvelle drogue.
Voilà,
il y a une équipe trend ici à Lyon aussi, qu'on connaît d'ailleurs.
Eux font des rapports donc tous les 4-5 ans, je crois.
Ah non,
puisque là, c'est surtout sur des chiffres souvent de 2016 quand même, hein. Oui, de 2016.
Ouais. Non, mais ils travaillent c'est tous les ans, toute l'année, hein.
Voilà, d'accord.
Ouais. Non.
Bah oui, non, mais j'ai pas dit qu'ils travaillaient pas toute l'année. voilà, en tout cas, ce qu'on voit dans les deux cas, c'est que... c'est que Claironi Inn a débarqué en Bretagne.
Bah, est revenu plutôt.
Est revenu, ou
qu'elle est plutôt de bonne qualité.
Elle débarque, pour, d'après l'article. Et pareil, au niveau de la Ville Rose. Alors là, c'est marrant parce que l'article pointe l'acuité des trafiquants à livrer des produits de qualité supérieure. Donc c'est ce que tu dis, aussi bien sur l'héroïne que sur la cocaïne. Dans les deux trucs, ça à peu près dit la même chose, hein. La cocaïne, qu'on avait déjà trouvé très présente dans les rapports précédents, continue, si ce n'est sa progression, en tout cas stagne à des niveaux assez élevés de consommation.
Ouais.
Le cannabis, toujours alors, autant cultivé localement,
voilà,
au niveau de la Bretagne. Et au niveau de Toulouse, le marché évolue. Est-ce que tu as vu s'ils avaient parlé de l'autoproduction dans le rapport de Toulouse ?
Eh ben, il me semble pas. Ils ont plutôt parlé d'un système de revente qui s'est structuré, qui s'est bien structuré. Où voilà, ils sont en gros capables de répondre à la demande, voilà. Mais ils parlent pas d'autoculture, effectivement. Voilà. Après, ils font un paragraphe sur les nouvelles drogues, les nouveaux produits de synthèse vers Toulouse, ce dont ils parlent beaucoup moins en Bretagne, où là, ils parlent plutôt d'une certaine popularité des amphétamines et du MDMA.
Oui. Et enfin, des systèmes de plus en plus organisés avec pas mal de violence. Et on arrive, donc ça c'est du côté de Rennes, et ça arrive à des épiceries. La violence, donc ça c'est dans les rapports, hein, c'est toujours malsain, il y a des passages à tabac avec... On ne sait pas trop pourquoi il y a ces passages à tabac, avec demande de compte ou dette ou autre.
Bah, c'est le marché noir, ce qui n'est pas régulé, et qui au lieu de se régler au prud'homme... se règle directement par la violence, sans préavis, sans avis sans lettre de licenciement. Voilà. Alors, ce qu'on nous dit aussi, ce qui se passe à Rennes beaucoup, apparemment, c'est qu'il y a la présence importante de mineurs qui participent au trafic, à la vente, enfin, à la distribution, à la surveillance, à la vente. On nous parle également de présence d'armes à feu. Il y a des règlements de compte. Voilà, on aurait presque l'impression, alors je vais dire une énormité, quelque chose de pas beau, hein, mais on aurait presque l'impression que lorsqu'il parle de ça, il nous parle des quartiers de Marseille. Voilà, tout ça pour dire que, en fait, il n'y a pas qu'à Marseille qu'il y a des règlements de compte, qu'il y a des passages à tabac, des séquestrations, qu'on trouve des armes à feu. Il y en a un peu partout. Moi, ce que je me suis demandé, c'est si... quelque part, la presse passait pas sous silence les règlements de compte et les assassinats qu'il peut y avoir dans des cités rennaises, de Brest ou de Nantes ou de je ne sais où, alors qu'on nous fait les gros titres en nous parlant de Marseille sans arrêt.
Oui.
Voilà.
Bien que ces derniers temps, ça soit pas Marseille qui ait fait les gros titres.
Bah, il y a eu un cas là quand même.
Aussi, récemment. Mais pas que. Ouais. Mais oui, je suis tout à fait d'accord. Moi, ce que j'ai aimé, quoi, ce que j'ai trouvé marrant dans cet article, c'est le phénomène qualifié d'épicerie qui a déjà été mis en place, qui se confirme. Donc ça, c'est des choses. Il y a des reportages qui montrent ça. Il y a eu des photos sur le canard enchaîné. Il y a eu, où on voit, il y a différentes sortes d'herbes qui sont en vente, différents sheets qui sont disponibles. Voilà. En plus, comme le disent ici, il peut y avoir aussi d'autres produits qui étaient dans la sphère festive jusqu'à maintenant, comme la MDMA ou la kétamine, qui peuvent se trouver aussi directement là-bas. Donc vraiment l'épicerie, comme ils disent.
Voilà.
Rien d'autre à dire sur ces deux articles.
Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais bon, on a dit l'essentiel. Et puis, la revue de presse, comme tu disais, est longue comme le bras. Donc, sinon, petite info rapide, tu l'as dit en introduction de cette émission, c'est la Norvège qui s'apprête à décriminaliser toutes les drogues. Décriminaliser, hein, dépénaliser, on va dire, dépénaliser... les usagers hein, qui en consommeraient, hein. C'est-à-dire qu'on voilà, bien quelqu'un de un politique là d'un parti conservateur qui dit oui attention on légalise pas hein. Donc voilà on dépénalise et visiblement d'après cet article il semblerait qu'il se soit inspiré du Portugal.
Ouais, tout à fait. Donc c'est simple, hein, ils prennent le problème, ils l'enlèvent du ministère de la Justice pour que ça soit le ministère de la Santé qui le gère.
Tout simplement.
Donc qui gère qui? Ben les toxicomaniaques. C'est-à-dire
les usagers de drogue.
Les usagers de drogue qui ont un comportement un petit peu excessif envers les produits. Quel que soit le produit, il y en a. Voilà.
Ouais, ben,
est-ce qui donne les alcooliques d'un côté ou les alcoolodépendants hein, pour l'alcool? Est-ce qui peut être la même chose pour tous les produits?
Les cannabinodépendants également. Et autres substances. Donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle, encore un nouveau pays d'Europe qui va modifier sa législation et assouplir sa loi, et comme donc tu disais, sortir de la sphère répressive pour l'inscrire du côté de la santé.
Voilà, donc là ils ont suivi l'exemple du Portugal, voilà. Qui a fait ça donc il y a maintenant 17 ans, puisque c'était en 2001. Et donc où ça s'est bien passé, où il n'y a pas eu d'explosion de consommation, au contraire... Voilà, c'est beaucoup mieux régulé maintenant au Portugal qu'il y a 20 ans.
Bien, alors un autre, un politique cette fois dont on a déjà parlé, hein, qui lui est un fervent promoteur d'une légalisation du cannabis en France, c'est le maire de Grenoble, le maire écologiste Éric Piolle, qui a publié sur Facebook... une petite interview de lui, une petite vidéo en fait, à partir de laquelle il a encouragé à peu près tout le monde, enfin tout le monde, toutes les personnes qui pouvaient être susceptibles de l'avoir, à la partager massivement. Et il appelle carrément à prendre exemple sur le modèle californien et, je cite, à arrêter l'hypocrisie et les drames qu'elle produit. On vient de voir les deux hein, en vous parlant de certains articles, hein, l'hypocrisie avec les graines hein, et puis les drames avec les règlements de compte, que ce soit à Marseille ou ailleurs en Bretagne hein, par exemple. Il nous dit également que la France doit ouvrir le débat, mais de quel débat? Eh ben, celui de la légalisation du cannabis. Cheval de bataille donc du maire de Grenoble, nous dit le journaliste de placegrenet.fr. Voilà, cheval de bataille donc qui estime-t-il permettrait de lutter contre les trafics. Le maire de Grenoble donc prend exemple sur le modèle californien où la weed, l'herbe, est donc légale depuis le début du mois. Je cite hein, la Californie légalise à son tour le cannabis et encadre le marché. Bonne solution, hein, il a mis les deux, pour 2018, arrêter l'hypocrisie et les drames qu'elle produit. Hein. Et donc les journalistes de placegrenet.fr se veulent rigolos, ils ne le sont pas d'ailleurs, en nous disant en 2018, année du shit. Voilà, sauf qu'en fait on s'en fout, c'est absolument aucun intérêt, et que c'est pas l'année du shit, et que parler du shit, enfin bon, c'est, je trouve ça, encore une fois, on pose la question de manière...
Mais c'est la rime.
Ouais, enfin bon, je trouve ça nul, bref. Je suis désolé, hein. Ça me gaffe, moi. Donc voilà, après plus loin dans l'article, on nous parle de la nouvelle stratégie de communication du maire, plus direct avec les grenoblois, avec notamment une série de messages vidéo baptisés « Ici c'est Grenoble », Et donc voilà, le maire invite les utilisateurs de Facebook à partager son message. Un message qui n'oublie pas au passage de signaler les comptes, donc Twitter, Facebook, YouTube de l'élu pour qui désire le suivre. Voilà. Un conseiller municipal de la ville de Grenoble lui emboîte le pas, Antoine Bach, qui est délégué à la coordination de la gestion urbaine et sociale de la proximité du secteur 2 de la ville. Hein, je vous dis tout ça, tout son titre. Et donc, Antoine Bach l'affirme, les logiques de prohibition ont démontré leur inefficacité sanitaire pendant des décennies et nourri la construction de véritables empires mafieux qui pourrissent la cité. Eh bien, on est bien d'accord. Voilà. Et l'élu de secteur, au-delà de la question du cannabis, d'exiger lui aussi un débat national franc et solidement étayé sur l'usage et le commerce des drogues en France pour une sérieuse évolution législative vers la fin de la prohibition. Un débat qui a déjà eu lieu dans plusieurs pays, nous dit-on. En Uruguay, le cannabis à usage récréatif est légal et s'achète en pharmacie. Et la Corée du Nord également, ça c'est pas mal, on parle de la Corée du Nord qui ne le considérerait pas comme une drogue. Et ben non, en effet. Et enfin, aux États-Unis, la Californie, pour sa part, 8e État sur 50, avoir mis fin à une législation prohibitive. Voilà. Alors, plusieurs réactions, ça a appelé pas mal de réactions sur les réseaux sociaux. Des réactions notamment de membres du cirque ou de militants qui ont envoyé à Eric Piolle, ok, très bien, c'est super sur les réseaux sociaux, mais il faut que ça, faut pas que ça reste sur les réseaux sociaux. Cet appel à légaliser ou à ouvrir un débat avant tout. Monsieur Piolle, qui parmi tous les élus est assez seul, on peut citer avec lui Stéphane Gatignon, également maire de Sevran, qui demande une légalisation. On peut citer également Esther Benbassa, qui n'est pas maire, mais qui est sénatrice, qui était sénatrice et qui avait fait un projet de loi demandant une légalisation. C'était au début de l'année 2015, je crois. Ils sont très peu. Voilà, tout ça pour dire qu'ils sont très très peu à vouloir réformer les lois sur les drogues en France, et en tout cas très peu à l'assumer et à le dire publiquement, parce que je pense qu'il y en a beaucoup plus que ça qui sont favorables à une réforme de la loi, mais la plupart, je pense, ne veulent pas bousculer leur groupe politique. Voilà, surtout s'il est contre. Je pense à la droite notamment, mais pas que, parce que au PS ou ce qu'il en reste. Je ne sais pas si on peut encore parler d'un parti socialiste, mais bon.
Ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qui se passe dans l'amalgame là. Je ne sais plus, En Marche là, je sais pas quoi.
Ah, chez Macron.
Ouais.
Chez En Marche arrière. pour l'instant, eux, ils sont sur la contraventionnalisation. Et en tout cas, s'il y en a qui pensent autrement, on les entend pas des masses.
On les entend pas pour l'instant, a priori. Voilà.
Alors donc, on va maintenant s'intéresser aux États-Unis, la mise en place au 1er janvier de ce mois, donc il y a 15 jours, la mise en place de la légalisation du cannabis à des fins récréatives. Alors, il y en a qui se sont peut-être dit « Ouais, super, la Californie vient de légaliser !» En fait, non. Ce à quoi on assiste en Californie, ce n'est ni plus ni moins que la mise en application de la légalisation telle qu'elle a été votée au mois de novembre 2016 pendant les élections présidentielles qui ont vu la réussite du président Trump. Hein, voilà. Vous le savez tous et toutes. Mais en Californie et puis dans d'autres États, parce qu'il y a d'autres États qui ont voté pour un changement de leur loi sur le cannabis, médical, récréatif ou médical, que médical et pas des plantes, mais plein de
trucs. Voilà, il y en a 8 qui ont voté, il y en a que 6 qui l'ont mis en place, donc la Californie doit être le 6e à le mettre en place. Néanmoins, ça représente quand même 20% de la population américaine.
Oui, parce que c'est l'État le plus peuplé des États-Unis. Donc ça représente du monde.
Ça commence à peser lourd dans la balance. Donc là, c'est un article du Monde du 31-12. Donc, juste avant la fin de l'année, ça va ouvrir. Donc on sait que ça a ouvert. Vous avez sans doute vu des reportages ou entendu parler d'une façon ou d'une autre. Et là, c'était juste avant où il rappelait un petit peu...
Les enjeux.
Voilà, je sais pas... Si t'en avais d'autres choses à dire là-dessus ou pas, sur cet article.
Oui, moi c'est la fin de l'article qui m'intéresse en fait, parce que là on va parler de Jeff Sessions juste après et il y a des redites, donc on va pas parler de ça.
Juste ce qu'on appelle la réglementation prévoit que les adultes pourront acheter une once, soit 28,3 grammes, et cultiver jusqu'à 6 plants à domicile. Voilà, a priori, ce qu'il y a dans la loi californienne.
Voilà.
Alors, il y a des retards à l'allumage, et que 42 autorisations accordées, 150 étaient encore en cours d'examen, donc le 28 décembre, donc c'est-à-dire juste avant l'année, alors que ça allait devenir légal.
On comprend pas quand tu dis ça comme ça, explique de quoi il s'agit, 42 autorisations pour faire quoi?
Pour vendre du...
Voilà, dans une officine.
Dans une officine, voilà. Pardon, excuse-moi, c'est vrai que je suis allé un tout petit peu trop vite dans mes...
dans tes déclarations.
Dans le raccourci du texte. Voilà, je le faisais. Moi, j'avais aussi noté une remarque de Normal, donc, qui est le groupe qui milite pour l'abrogation de la prohibition aux États-Unis, qui rappelait que quand même 2,7 millions de civils, 2,7 millions d'arrestations liées à la marijuana ont lieu entre 1915 et 2016.
Voilà, sur un siècle.
Sur un siècle. Donc ça fait quand même, on ne fait pas tant que ça quand on réduit par 100, mais ça fait quand même.
Ça fait du monde.
Ça fait quand même du monde.
Voilà.
Sur 100 ans, ça en fait quand même 27 000 par an. Sachant que les Noirs ont 4 fois plus de chances que les Blancs d'être arrêtés pour possession de cannabis, alors qu'ils ne le consomment pas plus.
Que les Blancs,
c'était,
en effet.
Que les Blancs, voilà, c'était une remarque de l'Union américaine pour les libertés civiles.
Voilà, alors moi, il y a autre chose que je voulais dire dans ce paragraphe dont tu ne parles pas, c'est que, en fait, selon les communes et les municipalités en Californie, il y en a qui ont été vraiment très très favorables à l'obtention de licences pour en vendre, et puis d'autres pas du tout. Et dans certaines communautés, par exemple, ça passe pas. Voilà, par exemple, dans les communautés asiatiques, ils ont pas envie en fait, ça les intéresse pas. Par contre, dans certaines communes ou territoires de la Californie, qui sont des territoires plutôt de l'intérieur de la Californie, désargentés, ou les desert towns de la Californie du Sud. Alors là, par contre, ils sont super d'accord parce que ils savent que ça peut rapporter de l'argent, en fait, des rentrées fiscales qui sont possibles. Donc voilà, je trouvais que ça, c'était intéressant quand même de le dire pour montrer que voilà, en fait, pas partout en Californie, on est d'accord avec le vote qui a eu lieu, en fait. Hein. Mm-hmm. Il y a des endroits où il y a des résistances, hein, ça les intéresse. Ils n'ont pas envie, en fait. Hein. Alors, il y a un autre truc que j'ai trouvé super intéressant.
Moi aussi, je pense que c'est le même dont on va parler.
Ouais. Voilà.
c'est dans certaines villes, parce que donc chaque ville décide si elle donne des autorisations ou pas.
Voilà.
Et c'est elle qui choisit comment elle les donne.
Exactement.
Et dans une ville, ils ont fait... c'est Oklahoma.
À Oakland, oui. Qui est en face de San Francisco. San Francisco, c'est la grande belle ville, on va dire, un peu belle, bourgeoise et touristique. Et puis en face, vous avez Oakland, qui est le San Francisco, entre guillemets, populaire, industrieux, ouvrière, avec beaucoup de noirs, en fait, et de ressortissants de minorités visibles.
Hein, voilà, donc l'idée d'Oakland a été reprise donc a priori à San Francisco et à Los Angeles, si j'ai bien compris. Et donc cette idée est de réserver la moitié des autorisations d'exploiter aux victimes de la guerre contre la drogue.
Voilà, alors là, enfin.
Donc la condition pour l'avoir, c'est d'avoir été condamné pour un délit lié à la marijuana, avoir des revenus de moins de 80% de la moyenne locale ou avoir résidé pendant 10 des 20 dernières années dans un quartier ayant connu un nombre élevé d'arrestations. Voilà, donc 130 personnes ont postulé au programme.
Ce qui n'est pas énorme. Voilà. Ensuite, ce qui est bien aussi, c'est que la ville d'Oakland encourage les riches investisseurs à s'associer à des victimes de la guerre à la drogue. Hein. Et ils leur disent, voilà, si vous voulez bénéficier d'une autorisation d'exploiter, c'est comme ça que vous devez faire. Et ça, alors là, moi je trouve ça mais super bien. Super bien. Ils ont compris. Eux, ils le font, ils vont le faire. Voilà, on en a déjà parlé à plusieurs reprises ici. Jean-Pierre Coutron, également président de la Fédération Addiction, l'a dit à plusieurs reprises. Il l'a dit à la radio il n'y a pas longtemps. Là. Il l'a dit, voilà, si on doit faire une légalisation en France, il faudra la faire avec les acteurs du cannabis en France, y compris ceux qui traficotent dans les cités ou qui sont poursuivis pour revente, etc. Il faudra le faire avec eux. Et là, aux États-Unis, en tout cas à Oakland, il s'est pas dit, mais je pense que c'est une municipalité démocrate et plutôt à gauche en fait. Voilà, eux, ils vont le faire. Ils ont envie d'associer les victimes de la guerre à la drogue au business qui va se mettre en place. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Pardon. Après, ils nous parlent de Jeff Sessions. On va pas en parler. On va en parler plus tard. Voilà, c'est tout. Moi, je voulais dire ça. Puis on peut passer à l'article suivant.
Ouais, juste quand même à la fin, parce que ça fait la transition.
Alors vas-y.
Puisqu'on est encore en 2017. Hein.
Dans l'article.
Ah oui, tu m'as fait quoi. Et donc à la fin de l'article, bah, tout allait bien, tout se présentait bien, puisqu'actuellement, a priori, Trump avait re-signé le principe de
le 22 Barack, décembre, ouais.
Le principe de Barack Obama qui disait on ne poursuivait pas d'individus ou d'entreprises.
Dans les États qui légalisent, on va les laisser faire leur truc.
Donc voilà. Pas d'usage de production sur les terres fédérales, pas de retombées financières au profit des gangs ou des cartels. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Pas de débordement dans les États non légalisateurs. Et à partir de là, bon, il fermait plus ou moins les yeux. Voilà, il y avait deux trois petites choses comme ça qui faisaient que ça allait, et a priori Trump avait signé ça.
Trump a reconduit donc ses accords en fait, les a reconduits discrètement le 22 décembre dernier lorsqu'il a signé la loi de finances rectificative. Voilà, il semblerait que son ministre de la Justice ne le sait pas.
Ou en tout cas, il n'est pas d'accord.
Ou alors, c'est orchestré. C'est-à-dire que Trump, lui, il dit « Ok, maintenant, toi, c'est ton boulot. »
Voilà. Donc, en tout cas, lui a annulé les circulaires qui protégeaient les États légalisateurs des poursuites de Washington, enfin, donc celles dont on venait de parler précédemment.
Il a annulé... Il a annulé, je sais pas, je cite Mike Kaufman qui est républicain, hein, donc du même camp que Jeff Sessions, et je vais pas dire de Trump, hein, parce que bon. Donc Mike Kaufman, qui était également opposé à la légalisation du cannabis en 2012, mais qui maintenant est plutôt d'accord. Et donc Mike Kaufman, il se demande, lui, alors je cite, hein, il se demande si le ministre comprend la Constitution des États-Unis. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve que les gesticulations de Sessions, hein, parce que de mon point de vue, ce sont des gesticulations.
D'accord, tu penses ?
Ah oui, ça n'a aucun sens. Enfin, je veux dire, le président, il reconduit les accords qui ont été passés avec les États, et il le reconnaît, et il reconduit ça le 22 décembre.
Ouais, mais
le 1er janvier, la Californie met en application donc la proposition numéro 10 là, qui a été votée en novembre 2016. Et lui, maintenant, il est vent debout contre justement ce qui se passe dans ces États. Ça n'a pas de sens. Donc moi, j'aime bien là ce qu'il dit Mike Kaufman en disant voilà, je ne sais pas s'il comprend bien la Constitution américaine.
Peut-être, mais en tout cas, dans un texte adressé à 93 producteurs fédéraux,
oui,
il a annoncé que les circulaires 2013-2014 signés par James Cole, à l'époque attorney général adjoint, étaient abrogés. Voilà, donc...
Ça n'a ni queue ni tête, hein, franchement.
Et donc maintenant, il insiste sur l'importance du retour à l'application intégrale de la loi de 1970 sur la loi des stupéfiants.
Et
donc
oui,
c'est pas de la nôtre, c'est celle des États-Unis. Ils ont aussi une loi de 1970.
Voilà. Qui reflète donc la loi de 70, qui reflète, je cite, hein, la détermination faite par le Congrès que la marijuana est une drogue dangereuse et que l'activité liée à la marijuana est un crime grave. Voilà.
Donc cette circulaire, par contre, ne met pas directement en danger le secteur de la marijuana médicale. Légal dans 29 États et en partie protégé par une loi du Congrès. Voilà, mais Juste un petit peu pour mettre les choses dans leur axe, voilà. N'empêche que ça ferait quand même du monde. Hein. Actuellement en Californie, ça ferait quand même 200 000 emplois. Hein. 7 milliards de dollars de chiffre d'affaires.
Oui, oui, bah c'est sûr que ça concerne du monde et des gros sous, quoi.
Donc ça fait, hein.
Ça, on est bien d'accord.
Et en France, ça ferait bien une centaine de milliers de... Une centaine de milliers, voilà. Oui.
Alors, il y a aussi quelqu'un là qui s'exprime, qui s'appelle Aaron Smith, qui est président de l'Association nationale de l'industrie du cannabis, qui représente plus de 1500 entreprises du secteur, et lui, il est un peu plus... il préfère temporiser, hein, il dit voilà, bon, c'est sûr que ce que dit Jeff Sessions, hein, il dit, c'est une décision inquiétante, mais pas forcément un changement majeur, hein, il dit comme ça, l'application des textes a été et restera à la discrétion des procureurs, voilà, c'est pour ça, et d'ailleurs juste après t'as vu la phrase, hein, les anti-prohibitions veulent espérer que Monsieur Sessions a fait du zèle et que les fonctionnaires de la justice, selon donc ce monsieur Smith, continueront, je cite, hein, continueront à respecter la promesse de campagne de monsieur Trump de ne pas interférer dans la décision, dans les décisions des États sur cette question. En tout cas, dans les États concernés, il y a eu une vive critique exprimée suite aux propos tenus par Jeff Sessions. Le sénateur du Colorado, qui est un républicain, hein, c'est d'autant plus mécontent qu'il croyait avoir obtenu personnellement l'assurance de Monsieur Sessions qu'il respecterait le droit des États. Voilà, c'est pour ça, encore une fois, j'insiste, je pense que ce sont vraiment des gesticulations. Voilà. Destinées à satisfaire une partie de l'électorat de Trump, qui, à mon avis, est dans sa majorité opposé à ces réformes sur la marijuana. Voilà. Je pense que c'est uniquement ça. Parce que bon, il dit ça, il fait ça, en fait, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont aucun moyen. Et encore une fois, je rappelle, hein, ce que dit ce Mike Kaufman, et en pointant du doigt les faiblesses de la compréhension de M. Sessions quant à l'esprit de la Constitution américaine. Voilà, voilà.
Voilà, bon, en tout cas, je sais pas, moi j'ai vu une phrase qui disait, en tout cas, les recours sont maigres, la Cour suprême a déjà statué en faveur de l'échelon fédéral. Donc je pense que ça permet aussi au gouvernement américain de, si vous voulez le faire chier un État, eh ben ils vont le faire chier là-dessus. Ça peut être aussi des moyens de pression ou sur certaines personnes en particulier. Voilà, je sais pas, hein, moi je vois plutôt ça aussi un peu comme ça.
Bon, on verra.
Ça leur laisse des libertés de manœuvre. Je sais pas si on reparlera de...
Du Canada,
il n'y a pas grand chose à en dire.
On peut juste
hein.
dire que voilà, on a dit, et en tout cas il a été écrit plusieurs reprises, que le Canada devait donc réformer sa loi sur le cannabis au 1er juillet. Il semblerait que, d'après M. Trudeau, hein, Premier ministre, que ce ne sera pas le 1er juillet, alors peut-être avant, tant mieux, on ne sait pas. Mais lui-même dit, mais d'où ça sort cette loi du 1er juillet, je ne sais pas d'où c'est parti. Enfin, en tout cas, ça se passera dans l'été, visiblement, ou courant de l'été, ou au début de l'automne, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, il ne faut pas tenir compte du 1er juillet. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Il n'y a pas grand-chose, on ne va pas y passer deux heures. Voilà. Ensuite, pour terminer, donc ce rapport, cet article du Monde, cet article dans le Monde.
Oui. Je te propose de faire une petite pause, peut-être musicale, deux secondes.
Ah bon,
et on y revient.
Pas le temps, mais bon. Mais d'accord, bon,
oui,
une petite.
Mais bon, c'est mieux de faire une petite pause.
Allez, à tout de suite après la petite pause musicale.
suis un grand héros.
Et voilà, on vient d'écouter Ludwig von 88, La Ganja. La Ganja de Ludwig von 88.
C'est pas la Bamba, c'est la Ganja.
Voilà, toujours de la petite musique du cirque, de chambre du cirque, l'un des premiers. Ça remonte à loin.
Arrête, on va croire qu'on est vieux après. Alors qu'on est toujours des jeunes. Bon, alors, donc voilà, on va maintenant parler un peu de cet article du Monde intitulé « Pour la paix des drogues, rapport d'étonnement ». Voilà, c'est un article qui est écrit par Frédéric Joigneau, un article de la semaine dernière, d'hier en fait, qui reprend en fait un article qui a été publié dans le New York Times récemment, au jour de l'an en fait. Suite à la légalisation, la mise en place de la légalisation californienne. Et donc, ben voilà, ça commence comme ça. Donc, cette tribune qui paraissait dans le New York Times sous le titre La guerre ratée contre les drogues et qui était signée par deux pointures politiques et dont d'une personne, franchement, ça m'a surpris. Donc, un républicain que je connaissais pas, George P. Schultz. Ah oui, non, maintenant c'est lui, voilà. Donc ce George P. Schultz, qui est un ancien secrétaire d'État de Ronald Reagan. Alors ça c'est quelque chose. Parce que Ronald Reagan, je crois qu'au niveau guerre à la drogue, il était au moins aussi pire que Nixon. Il en a rajouté au moins une bonne couche, voire deux, voire trois, parce qu'ils ont modifié pas mal de lois.
Tout à fait.
Et l'autre qui s'exprime, Pedro Aspe, qui est un ex-secrétaire des finances mexicain. Et donc, cette tribune dans le New York Times de ces deux personnes s'ouvre sur un constat sans appel. La guerre contre la drogue lancée aux États-Unis sous Nixon est toujours en cours, a été un échec qui a dévasté des vies, rempli des prisons et coûté des sommes colossales. Ça commence bien.
C'est une très bonne introduction. Qui continue après sur plein de choses, aussi bien sur le marché noir que le gâchis humain. Donc qui rappelle le marché noir, l'argumentation suit, il est irréaliste de vouloir éradiquer les producteurs et les trafiquants des pays pauvres. L'offre, quand la consommation récréative des drogues par les pays riches, la demande, est considérable. Donc ce combat génère automatiquement du marché noir à des prix faramineux, avec toutes les bagarres que l'on sait. Ce qu'on voit à Marseille, ce qu'on voit dans les banlieues, ce qu'on voit dès que ce dont on a parlé, ce que disait le rapport 30, hein, donc des guerres,
Trent. Non, parce qu'on dirait Trump quand tu le dis.
Voilà, donc résultat, aux violences, les violences liées au cartel ont fait plus de 100 000 morts depuis 2006, donc en 10 ans, 10 000 morts par an. Dans les pays consommateurs, donc...
100 000 morts par an, pas 10 000, 100 000 morts par an au Mexique depuis 2006. 100 000.
Non, on fait plus de 100 000 morts depuis 2006.
Voilà, mais t'avais dit 10 000.
Bah, ça fait 10 000 par an. C'est tout, bon, c'est pas grave.
Excuse.
Dans la,
dans les pays produits, dans les pays consommateurs.
Voilà, donc on n'est jamais arrivé à endiguer,
La consommation,
la prohibition échoue toujours lamentablement. Conclusion, un fiasco général. Alors que faire ? Les deux signataires donnent des pistes, qui sont très très bonnes d'ailleurs. Donc c'est dépénaliser la possession de petites quantités de drogue à usage personnel et avoir le droit de cultiver et de distribuer de la marijuana pour un usage personnel.
Voilà, ils sont favorables à l'autoculture.
Voilà, enfin, créer des centres de traitement où les gens pourraient se rendre sans crainte dès les poursuites. Voilà, donc c'est les trois choses qui sont fondamentales. Autrement dit, ils disent la voie récréative californienne, donc je dirais pas tout à fait un truc entre le Portugal et l'Uruguay, plutôt, mais...
Ouais.
Voilà, parce que je pense que la méthode californienne doit être un petit, n'est peut-être pas tout à fait celle du Nevada, mais ça doit être quand même des gros trucs. Voilà, le gâchis humain, donc c'est les bilans de la war on drug.
La war on drug, war on drugs.
Qu'est-ce qu'on peut dire?
Bah oui,
des milliers de morts, il y a plein de textes, et on en a parlé plein de fois, de plein de gens ont déjà signé des trucs et des trucs. Voilà, donc ce qui rappelle, c'est que l'Allemagne, la Belgique, le Canada, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la République tchèque, la Suisse, l'Uruguay et 8 États américains ont dépénalisé la consommation de marijuana et s'orientent vers un traitement médical et non répressif des consommateurs de drogues dures.
Alors moi, je rajoute, ils ont oublié... C'est pas encore fait, mais ça va se faire. Hein. C'est la Pologne, un gouvernement raciste et hyper conservateur qui, non mais franchement, c'est hallucinant. Hein. C'est vraiment le monde à l'envers. Qui va réformer sa loi sur le cannabis. Voilà. Donc la Pologne, on peut rajouter. Excuse-moi, je t'ai coupé.
Ah bah ouais, celle-là tu me la prends d'ailleurs. Ça m'en coupe une.
La Pologne. Mais on en a parlé il y a pas si
longtemps. Voilà. Donc bon, ça c'est juste pour le dire que. Il faut quand même changer un peu les choses. Et qu'il y a quand même quelques pays qui ont changé. Donc, il serait temps de s'y mettre. Et enfin, bon, il me faisait un tout petit truc sur les salles
de consommation.
De consommation à moindre risque. Donc, toujours beaucoup de réticence à l'ouverture d'une seule en France. Alors qu'il en existe plusieurs centaines.
Hein, en Suisse. Ouais. Une centaine, pas plus.
Voilà. Une centaine. Enfin, dernier chapitre et la conclusion sur l'homme Saint-Jean-Ivré. Il faut rappeler que l'homme boit, mâche, hume, inhale, fume, distille des substances psychoactives depuis son apparition sur Terre. Pour l'ethnobotanisme, Terence McKenna, l'homme est un singe enivré qui a acquis le langage en consommant des champignons psilocybes.
Psilocybe,
oui. voilà, qu'est-ce que... après, bon, il donne deux, trois petits exemples, tu veux les citer ou...
Ouais, il parle d'un historien qui a repéré chez les Sumériens, 3100 ans avant Jésus-Christ, un signe représentant l'opium comme la plante de la joie. Pour Nietzsche, il parle des bacchanales dionysiaques des Grecs, qui témoignent d'une conception festive, érotisée et joyeuse de l'humain, car les drogues sont inséparables de la culture humaine, que ce soit celle du vin ou des plantes magiques ou sacrées. Mais la répression politique a toujours accompagné les psychotropes, que ce soit par autoritarisme, paternalisme ou démagogie. Plutôt que de laisser les citoyens tempérer eux-mêmes leur usage, les médecins soignaient les addictions, elles prétendent les protéger contre eux-mêmes. Et là, c'est formidable, on nous parle d'Antonin Artaud. En 1925, réagissant à l'interdiction internationale de l'opium et du cannabis sous la pression de l'Amérique prohibitionniste, le poète Antonin Artaud écrit « La loi sur les stupéfiants met entre les mains de l'inspecteur usurpateur de la santé publique le droit de disposer de la douleur des hommes » et il conclut par cette injonction au législateur « Avale ta loi ». Et moi, je ne peux pas m'empêcher de dire ce qu'il a dit au début et pas en conclusion.
Tout à fait.
Quand même, il faut le dire. Hein.
C'est un rappel, donc c'est la lettre à monsieur le législateur de la loi sur les stupéfiants.
Et donc ça commence.
Donc d'Antonin Artaud.
Voilà, monsieur le législateur de la loi de 1916, agrémenté du décret de juillet 1917 sur les stupéfiants, tu es un con. Ta loi ne sert qu'à embêter la pharmacie mondiale sans profit pour l'étiage toxicomaniaque de la nation, parce que, premièrement, le nombre des toxicomanes qui s'approvisionnent chez le pharmacien est infime. Deuxièmement, les vrais toxicomanes ne s'approvisionnent pas chez le pharmacien. Troisièmement, les toxicomanes qui s'approvisionnent chez le pharmacien sont tous des malades. Quatrièmement, le nombre de toxicomanes malades est infime par rapport à celui des toxicomanes voluptueux. Cinquièmement, les restrictions pharmaceutiques de la drogue ne gêneront jamais les toxicomanes voluptueux et organisés. Sixièmement, il y aura toujours des fraudeurs. Septièmement, il y aura toujours des toxicomanes par vice de forme, par passion. Huitièmement, les toxicomanes malades ont sur la société un droit imprescriptible, qui est celui qu'on leur foute la paix. C'est avant tout une question de conscience. Voilà. Je sais pas si tu veux lire le reste du texte qui est très bon.
Aussi, où il parle de la douleur et de différentes choses et de ses angoisses.
Mais c'est dommage qu'il parle. Il dit maintenant à Valtalois, mais j'aime bien ce qu'il dit quand même à la fin. Toute la science hasardeuse des hommes n'est pas supérieure à la connaissance immédiate que je puisse avoir de mon être. Je suis seul juge de ce qui est en moi. Rentrez dans vos greniers médicales punaises, et toi aussi, monsieur le législateur moutonnier, ce n'est pas par amour des hommes que tu délires, c'est par tradition d'imbécilité. Ton ignorance de ce qu'est un homme n'a d'égal que ta sottise à le limiter. Je te souhaite que ta loi retombe sur ton père, ta mère, ta femme, tes enfants et toute ta postérité. Et maintenant, avale ta loi. Voilà, voilà.
Et c'est comme ça que l'on conclura donc ce Cannabis Circus
de ce 15 janvier 2018. Voilà, on vous reparlera la semaine prochaine un peu de ce Cannabis Light.
Et du cannabis thérapeutique. Voilà, voilà. On va passer la parole parce que là, on est quand même déjà un petit peu en retard. Ciao à tous.
Bonne soirée, à la semaine prochaine. Au revoir.